A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bienvenue dans C'était mieux avant. C'était mieux avant, un podcast réac.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine, avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui, pour commenter la sortie de la semaine, je suis avec Eric.
Bonsoir Clémence.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, on retrouve Alain.
Salut Clémence.
Et c'est Latex qui s'est occupé de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous emmène dans le bush australien avec True Story of Gang Kelly, l'histoire du vrai Gang Kelly. Ce film raconte la trajectoire de Ned Kelly, un célèbre bush ranger, un bandit de grand chemin, qui a vraiment existé. Ned Edward, de son vrai nom irlandais d'origine, est né vers 1850. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais en Australie, c'est une figure historique. Considéré par certains comme un tueur de policiers, pour d'autres comme une véritable icône, à l'époque où l'Australie cherche à gagner son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, on le voit comme une sorte de Robin des bois modernes, mais aussi comme un des représentants de la résistance face aux classes dirigeantes et à l'abus de pouvoir des autorités. Alors découvrons l'épopée de Kelly et de son gang de bushrangers qui ont fait à la fois régner la terreur et allumer une lueur d'espoir chez ceux qui n'avaient rien. Le film est sorti sur les plateformes de VOD le 19 novembre. Il avait été présenté au Festival international du film de Toronto l'année dernière et il sortira en Blu-ray le 2 décembre. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs ? On commence avec votre critique express. Eric, Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ?
Aléatoire. Pour moi.
Aléatoire, très
hipster.
Bien. Aléatoire, hipster. Ouais. Bon, et ben ça promet. Allez, c'est parti.
Bah, écoute, ce que tu as dit au départ est très juste. C'est-à-dire que pour les Australiens, Ned Kelly, c'est vraiment une figure légendaire. Ça a été un peu un des piliers en fait de la culture australienne. Il y a une chanson de Johnny Cash qui en parle. Il y a un film avec Mick Jagger qui a été fait. Il y en a un autre avec Heath Ledger qui a été fait aussi. Donc c'est vraiment en fait un espèce de monument. Donc a priori, moi, ce film, il avait vraiment toute ma sympathie parce que quand on voit c'est un réalisateur australien en fait qui se penche sur ce héros mythologique, quasi mythologique, ça donne envie. Après, le réalisateur, moi, j'étais pas très très fan de son premier film, Snowtown, et de ce qu'il avait fait après. J'aime bien son Macbeth, par contre, quand même. Mm-hmm. Je trouve qu'il a vraiment une certaine tenue, son Macbeth. Mais après, j'aime pas trop Assassin's Creed. Je pense que je suis pas le seul. Mais bon, j'attendais quand même un peu de voir ce film, et malheureusement, j'ai trouvé ça un petit peu aléatoire, effectivement, parce que je trouve que la mise en scène, il n'y a pas de principe de mise en scène, et surtout, il n'y a pas de principe de narration. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Stéphane. Mais...
Alors, le réalisateur, juste pour redonner son nom, hein, c'est Justin Kurzel.
Voilà.
Merci.
Réalisateur d'Assassin's Creed. Moi, pour moi, j'ai vu qu'Assassin's Creed, j'ai pas vu ses autres films. Donc, j'ai pas vu Macbeth, j'ai pas vu Snowdown. Snowtown, c'est ça,
Snowtown, ouais. Les crimes de Snowtown en français. Ouais.
Et celui-là, bah, en fait, il a un espèce de principe. Par contre, tu parlais de mythologie. Et en fait, il a un espèce de principe de faire justement, comme le titre anglais le précise, le titre français c'est le Gang Kelly, mais le titre anglais c'est True History of Gang Kelly. Et en fait, c'est faux. C'est déjà un premier problème, je pense, un premier point. C'est qu'en fait, il essaye de faire un espèce de film qui serait une vision réaliste de ce personnage-là. Et du coup, je pense que c'est le premier frein, en fait, à la problématique du film, parce que on se retrouve, en fait, dans une construction scénaristique qui calquerait, on va dire, les certains moments clés, en fait, de la vie du personnage, mais les retranscrivant, pas tel quel, hein, parce que c'est pas possible, mais en fait en les retranscrivant de manière à ce que, par exemple, telle figure paternelle apparaît dans le film, comme le personnage de Russell Crowe, disparaît sans laisser de traces, c'est-à-dire on sait plus ce qui se passe, il y a telle personne qui est antagoniste en fait, qui disparaît aussi à un moment donné, pour recréer un autre antagoniste plus tard. En admettant que ça soit la vraie vie du bonhomme et que ces personnages-là en fait soient vraiment, comment dire, entrés et sortis de sa vie de manière non événementielle, le problème c'est que le film en fait, si tu veux, il te donne qu'une portion de leur, comment dire, relation. Donc en fait, il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie pour le spectateur en fait quand t'as ce genre de truc. Et mine de rien, c'est là où tu te dis, en fait, il refuse, j'imagine, ce qu'il pourrait considérer comme un artifice. C'est-à-dire de se dire, attends, je fais une histoire vraie. Sauf que tout le film n'est qu'artifice à côté malgré tout. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement... quand je dis hipster, j'utilise ce mot, c'est parce que, en gros, en fait, ils sont pas fagotés comme des bandits bouseux du bush australien. Ils sont fagotés comme ils ont des flanelles Célio, ils ont des frocs, tu vois. En fait, ils sont sales, mais en fait, ils changent de slip tous les jours. T'as l'impression. Enfin, c'est vraiment un truc un peu. C'est hyper bizarre parce que il y a ça. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, Kurzweil, il a dit il leur a fait jouer ce truc. Il leur a dit, ok, en fait, à ces acteurs. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut préciser, par contre, c'est que moi, j'aime pas trop le film, mais je pense que c'est un film qui peut faire illusion, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est un film qui peut faire illusion parce qu'il y a un bon casting, c'est vraiment des bons acteurs. Si tu veux, t'as Russell Crowe qui est bien, t'as l'acteur principal qui est très bien aussi, t'as la mère qui est très bien.
Qui s'appelle George MacKay.
Voilà, merci George MacKay, qu'on a vu dans plein d'autres films. Hein. Il était dans, par exemple, Le Secret des Marrowbones, en fait, qui est un petit film espagnol qui était pas mal. Et c'est vraiment plutôt un bon acteur et tout. Donc c'est plutôt bien joué. Le problème, c'est pas en fait ça, c'est le problème, c'est l'espèce de logique des personnages qui est hyper pareil, aléatoire. Alors le terme est plutôt bien choisi quand même, mais parce qu'en fait, tu te dis, mais un coup, en fait, il déteste sa mère, un coup, il l'aime bien.
C'est ça.
Et tu sens que c'est un truc où tu te dis, ok, d'accord, ça peut être ça dans la vraie vie, mais dans un récit avec une figure connue et mythologique, on va dire, si tu veux, c'est dommage en fait de pas blinder ça psychologiquement, d'avoir une vraie écriture, en fait, si tu veux, qui fonctionne à peu près à ce niveau-là. Et après, l'autre problème que j'ai, tu voulais dire un truc, Clément.
Ouais, bah, je trouve que le personnage de la mère, en fait, pour le coup, campe plutôt bien les retournements un petit peu d'affect du personnage vis-à-vis d'elle, parce qu'elle-même, elle est quand même super toxique dans la relation qu'elle a avec lui.
Oui, bien sûr.
Donc tu comprends aussi que lui, c'est pas sur quel pied danser.
Oui, mais tu vois, par exemple, il y a un truc à un moment donné dans le film où un des personnages lui dit, à la mère justement, il lui dit, tu sais, ton fils se déteste. Et en fait, c'est pas quelque chose que tu ressens du tout. De tout le film, je trouve. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant que ça soit quelqu'un d'autre, enfin, que ce soit pas quelqu'un d'autre qui le dise, mais que ça soit quelque chose qu'on ressente, en fait, dans leur relation. Et jusque presque. Ouais. Ouais. Non, mais tu veux dire, il y a des moments, ouais, mais.
Moi, j'ai l'impression, après, c'est mon impression, mais sur toute la première partie du film, la partie où on le voit enfant. Il cherche à fuir sa mère et en fait il se fait rattraper par ça. Il se fait rattraper par ses origines, par.
Voilà, et ça je pense que c'est la partie du film que j'aime bien parce que quand je dis que c'est aléatoire, il y a aussi des parties du film que j'aime bien parce que je trouve la démarche sympathique. C'est pas un film qui a été fait pour le fric, ça se sent. C'est juste un film qui
C'est un film qui a été fait pour le Gloriol.
Oui, peut-être. Mais bon, quand même, moi, j'aime bien, en fait, l'état dans lequel me met le film, l'état critique, me fait poser des bonnes questions sur la structure, etc. Donc, il n'est pas complètement creux, le film. Moi, c'est un genre de film où j'aurais bien voulu en parler au réalisateur si j'avais pu.
Oui, bah,
voilà. Il est pas du tout vilain, il n'est pas du tout mercantile, il n'a pas été fait pour les mauvaises raisons, je pense pas. Et il y a des très belles scènes dans ce film, notamment toute la partie avec Russell Crowe quand il forme le jeune Ned Kelly, c'est vraiment bien. Et comme tu le disais, Clémence, le rapport de ce type-là à sa mère est assez intéressant. Il y a un moment où, en fait, la mère, on comprend qu'en fait, elle veut pousser son fils à devenir une légende et que ce type-là, en fait, subit, en fait, cette fausse identité-là et que ce type ne sait pas qui il est. Moi, quand j'ai des moments pareils dans le film où, en fait, un personnage est en pleine construction et essaye de se construire, etc., je vais jamais totalement détester le film parce qu'il y a quand même toujours quelque chose où il y a une tentative de portrait psychologique. Le problème, effectivement, c'est que c'est blindé de maniérisme. Tout d'un coup, la lumière et la mise en scène essayent des effets alors qu'il y a d'autres séquences qui sont extrêmement sobres. Il y a une très belle fin, mais il y a une deuxième partie qui est complètement catastrophique, un deuxième acte où, en fait, on s'ennuie et ça passe du coq à l'âne tout le temps. Donc, c'est un peu pénible. Et justement, ouais, comme disait Stéphane aussi, je pense que le côté hipster, on le sent dans la mesure où, en fait, c'est un film qui essaie toujours, qui marche un peu à l'épate, quoi.
À l'épate, et en fait, le truc, quand je parlais de côté hipster, c'est qu'en fait, il y a un point, si tu veux, où apparemment le réalisateur a expliqué aux aux acteurs principaux, il leur a dit vous êtes un groupe de punk rock. En gros, et vous allez, en fait, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un album, vous allez le machin, et dans 3 semaines, vous le jouez sur telle scène, tu vois, etc. Et t'as envie de dire, oui, mais en fait, d'accord, tu nourris tes personnages parce que c'est ta logique, en fait, de ce que c'est le gang Kelly. Mais en fait, c'est, pour moi, ça se retranscrit que dans des affréteries, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment des petits à côté. C'est-à-dire, ils ont la petite coupe, tu vois, hipster, ils ont le petit truc comme ça, etc., etc. Mais qui n'est jamais vraiment justifié, je trouve, par le c'est-à-dire, quand que tu sois mal coiffé parce qu'en fait tu te coupes avec des ciseaux comme un bourrin parce que t'es dans la comment dire dans le bush australien, d'accord, tu vois, mais là c'est pas ça, c'est savamment mal coupé, tu vois ce que je veux dire, c'est savamment. Et en fait le truc c'est que au final la problématique que j'ai vis-à-vis d'un truc comme ça, c'est que le personnage principal dans sa véritable histoire en fait n'ait jamais cherché à être une légende, et c'est sa mère qui l'a poussé à le faire, que les circonstances ont fait que ça soit arrivé, que on en parle 150 ans après, qu'on en fasse des films sur lui, des récits, etc., etc., mythologiques, très bien. Même dans sa approche pseudo-réaliste, et je dis bien pseudo parce que pour moi, en fait, ce n'est que vraiment c'est du Canada Dry, en fait, hein, dans cette approche-là. En fait, tu ne ressens pas l'aspect mythologique au final. C'est-à-dire que quand tu es en train de regarder le film, tu ne te dis pas à un seul moment donné, en fait, ce mec avec qui je me suis fait chier pendant 2 heures, ça va devenir une légende, en fait. C'est super bizarre, quoi. Donc je ne sais pas. Ça fait partie de ces problématiques-là. Et puis après, il y a ce truc où c'est un film qui dure 2h10, je crois, à peu près. Et en fait, c'est un gang, littéralement 20 minutes dans le film. Voilà, il faut aussi savoir ça. C'est-à-dire que ce n'est pas... c'est pas un western australien avec comment dire des braquages, des trucs comme ça, etc., etc. C'est vraiment un film, j'ai envie de dire d'auteur presque, mais je sais pas si c'est le terme, mais vraiment
dans le mauvais sens du terme.
Ouais, c'est pas un genre en soi, mais en fait il y a une approche comme ça, quoi.
Il y a un truc que je veux préciser parce que tu parles de réalisme depuis tout à l'heure, mais l'ouverture du film, les premières choses qu'on voit à l'écran, c'est quand même une phrase qui s'inscrit et qui dit rien de ce que vous allez voir n'est vrai. C'est la toute première phrase. Donc ils annoncent la couleur.
Sauf qu'ils annoncent la couleur, mais c'est presque illogique, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il n'y a qu'un truc de factice. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux, t'as ça, et puis la première scène que t'es censé voir, parce que le cinéma, c'est quand même un art visuel, hein, la première scène que tu vois, c'est la mère de, comment dire, de Ned Kelly. Elle était obligée de faire des passes parce que son putain de mari, c'était un espèce d'ivrogne qui était impossible de la défendre auprès d'un type, etc., etc. Et tu te dis, ok, d'accord, donc c'est cru. Ça se veut, tu vois, comment dire, attention, on détourne pas le regard, tu vois. Mais en fait, dans toutes les scènes comme ça, c'est-à-dire, à part éventuellement si t'es éventuellement chopé par cette scène où tu te dis, ah tiens, putain, le film il commence sur un truc un peu, comment dire, malsain, tu vois, admettons, le reste du film fonctionne pas sur cette logique-là. Quand je parle de réalisme, en fait, je pense que c'est ça qu'il essaye d'avoir, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, pour autant, il n'y a pas, par exemple, de scène de cul crue ou de trucs comme ça, tu vois, à part ce moment spécifique, tu vois. Mais, par exemple, ils abattent un cheval à bout portant, tu vois. Il y a un bébé qui est menacé avec un flingue, tu vois, des trucs comme ça. Et le problème, en fait, c'est que ces scènes-là, bah, je trouve, en fait, la tension, elle est au niveau zéro.
C'est vrai.
Et c'est ça qui est super énervant, en fait, quand tu regardes un truc comme ça. Si tu dis, quand je dis c'est hipster, c'est-à-dire que, en fait, je suis vraiment mauvaise langue, en fait, en allant dans cette direction-là, dans le sens où vraiment, en fait, c'est pas un... Je le dis pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est que tu sens que le mec, en fait, s'est dit, tiens, j'ai vu des films des années 70, un peu cru, un peu machin, etc., Un homme nommé cheval, Soldat bleu, etc., etc., je vais essayer de retrouver un peu cette énergie, tu vois, violente, délétère et tout, mais on en reste à la surface totale. C'est-à-dire, et moi, je pense qu'on en reste à la surface totale parce que, précisément, je pense qu'il se pose pas les bonnes questions. C'est avant de se dire, est-ce que c'est un... En fait, pour moi, c'est un groupe de punk rock, tu vois, le gang Kelly. C'est non, en fait, pose-toi la question de pourquoi, en fait, 150 ans après, t'as besoin de faire un film sur ça. Parce que ça existe dans dans ta culture, de là où tu viens, etc., etc. Et malheureusement, je trouve que c'est ces questions-là qui se posent pas, en fait, quand je regarde le film. Ce qui, encore une fois, malheureux, parce que je pense qu'il a le casting, en fait, adéquat pour le faire. Je pense qu'il a, aujourd'hui, la stature pour faire un film, en fait, voilà, et je pense des bons techniciens compétents, mais je pense que son approche est beaucoup trop contemporaine, en fait. Et quand je dis contemporaine, c'est contemporaine, je cible vraiment la décennie 2010, tu vois, si tu veux, c'est-à-dire qu'à mon avis, dans 10 ans, c'est un film qui sera vraiment ringard et vieux, quoi. Et alors, c'est un détail, hein, c'est une connerie, mais quand je dis hipster, il y a même le générique de fin, c'est un lettrage de vinyle.
Ouais.
Donc c'est un peu
avec de la musique punk, etc.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Donc c'est un peu, c'est Si c'était la porte d'entrée et que le mec il a bité ça de manière, en fait, il a incarné ça, si tu veux, et que c'était vraiment un truc bah, pas punk aujourd'hui, mais punk années 70, tu vois, j'aurais plus, je pense, me serais dit, ah, c'est cool, tu vois, d'éventuellement avoir cette logique-là, si on arrive à retrouver l'aspect mythologique, tu vois.
Mais je vois ce que tu veux dire, le film, ils sont un petit peu la pose, la mise en scène, on dirait un peu du wannabe Harmony Corrine. Là où, en fait, moi, j'aurais voulu, ça c'est personnel, mais un film ouais, plus classique, quelque chose comme, je pense que la grosse référence de ce film, ce que le film n'est pas, c'est moi, un film que j'adore, qui est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Parce que c'est peut-être une des plus belles directions de photographie jamais faites dans un film. Et le score est incroyable, etc. Et surtout, en fait, c'est un film qui sent le classicisme à plein nez. Et là, à l'opposé, bah, ce film-là, en fait, il est punk et un petit peu poseur, en fait. C'est un peu ce que tu dis. Et pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à transcender son sujet. Et encore une fois, moi, je pense que. Parce que c'est quand même assez rare de voir une mise en scène qui arrive à abîmer un script réussi. Je pense que le problème de ce film-là, c'est le script.
Mais après, il y a un autre truc, parce que je vais peut-être préciser ça aussi. Parce que si vous êtes des gros bourrins comme moi et qui regardez que les films, que les blockbusters des mecs comme ça, tu vois, en fait, tu regardes pas les autres films, quoi. C'est carrément un chef-d'œuvre à côté de Assassin's Creed. Hein. Alors là, son adaptation d'Assassin's Creed, bah, je pense qu'il est pas le seul responsable du désastre.
Hein. Non, encore une fois, mais le script est catastrophique.
Voilà.
Et les adaptations de jeux vidéo en général.
C'est compliqué, mais tu vois, le truc, si tu veux, c'est que on va dire que ils avaient au moins sur Assassin's Creed l'avantage d'avoir une licence, si tu veux, qui était basée sur l'histoire. L'histoire avec un grand H,
vrai, ouais.
Et du coup, en fait, éventuellement la possibilité de traiter ça, quoi.
Et de faire une franchise en plus.
Voilà, c'est ça. Et malheureusement, déjà, c'est un quart d'heure dans le film, ça. Mais en plus, je pense qu'il y avait toute la contingence en fait derrière toutes les problématiques d'Ubisoft, les problématiques de studio, les problématiques qui se rajoutaient, etc., etc. Et le fait que c'était un énorme enjeu quand même pour Ubi. Et lui, je pense qu'il a pas le level en fait pour gérer ce genre de truc là et faire quand même un film, on va dire entre guillemets, de mercenaires. Mais donc c'est un peu plus chiadé que ça, c'est un peu plus réussi que ça. Maintenant, parce que c'est un peu plus profond. Enfin, je pense que ça vient un peu plus de lui quand même. Là, par contre, il peut pas se cacher derrière la problématique d'Ubi. Si tu veux, c'est que en fait, si son film là, il pose problème, c'est parce que en fait, je pense que c'est son approche qui pose problème. Mmh. Mais bon, faudrait peut-être jeter un œil sur Macbeth ou sur.
Macbeth est assez intéressant parce qu'il arrive quand même à. C'est quand même quelque chose. C'est quand même une pièce qui est assez lourde, qui est pas très. Même s'il y a eu beaucoup d'adaptations, qui est pas très. Fascinante à regarder en film, et il arrive à en faire quelque chose qui est quand même assez impressionnant avec des images assez hypnotiques. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a les mêmes problèmes que tu vas retrouver dans Assassin's Creed et dans le dernier aussi, où en fait la structure de film, on sent mal les actes, tout est un peu sur la même ligne en fait. Mais quand même, moi, c'est un film que je reverrai avec plaisir, par exemple Macbeth. Il y a vraiment de quoi. Ouais. Il y a une vraie dimension dedans.
Moi, ce qui me fait un peu peur, du coup, c'est... Pardon, tu voulais dire un truc. Non, mais moi, ce qui me faisait un peu peur là-dedans, c'est plus la logique. Après, c'est vraiment rétroactivement parlant. C'est-à-dire qu'un truc comme Macbeth, je me dis, s'il l'adapte exactement avec la même logique, il adapte quelque chose d'aussi connu, finalement, que le Gang Kelly, en tout cas en Australie.
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Là, je pense que c'était aussi... c'était exactement la même équipe, d'ailleurs, et le même casting que dans Assassin's Creed. Et Assassin's Creed n'est pas, quoi. C'est-à-dire que... Que Assassin's Creed, en fait, je pense là encore une fois, hein, pour reprendre mon principe, qu'une mise en scène abîme rarement un très bon scénario. Dans Assassin's Creed, en fait, le scénario est absolument catastrophique, c'est-à-dire que quand on le découvre, il t'explique tout dès le départ, ce qui donc ça tue toute tentative d'intrigue, et à la fin, on se retrouve quand même avec des gens qui cherchent une pomme d'or. Voilà. Ouais. Donc il y a plus fascinant, hein, quand même.
Ouais, ouais.
Moi, ça me rappelait le début de Transformers où tout d'un coup, bon, ils n'arrivent pas à faire un film
de
Transformers. Tu dis
pas de mal de Transformers.
Bon, ils n'arrivent pas à faire un film de Transformers, donc il y a une voix off au début qui montre l'univers à la Kubrick et qui dit « Au début, il y avait un cube. » Et là, tu te dis « Bon, bah, on va se taper 2h30 de robots qui cherchent un cube. » Et c'est toujours le problème.
Mais ça, c'est le MacGuffin, on va dire, si tu veux. C'est ça le truc, quoi. Mais là, t'en as pas. Mais c'est même pas la question. En fait, moi, je pense que c'est ça le fond du problème. Au final, c'est pas tant, en fait, que... C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que l'histoire du Gang Kelly, en soi, si elle fascine 150 ans après, et que lui, il a cette approche-là, si tu veux, pourquoi pas ? C'est, au final, c'est juste que t'as l'impression de vivre le quotidien. En fait, si tu veux, t'as cette problématique-là, en fait, c'est que... Je sais pas si ça t'a fait penser à ça, toi. Je sais pas si ça vous a fait penser à ça. Mais une espèce de logique à la Malick, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il va inscrire le personnage dans le décor naturel, dans tous ces trucs-là, etc. Ce qui, pour moi, semble assez cohérent, si tu veux. mais il aura pas, en fait tu sens qu'il se dit tiens je vais travailler sur cette matière là, tu vois, la boue, la nature, les trucs et tout, sauf que en fait si tu veux il se dit ouais mais là je me fais chier, donc en fait il passe à la scène suivante quoi. Alors que Malick il se fait chier à passer 5 heures à tourner tu vois des plans dans la journée pour finalement choisir au montage, tu vois.
Mais alors finalement on a quand même un décor de base qui est incroyable, un personnage qui a une histoire assez dingue. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça soit un bon film?
Pour moi clairement, encore une fois, pour en revenir à mon cheval de bataille névrotique, un bon script quoi, vraiment une structure, parce qu'il y a, encore une fois il y a des très bonnes idées dans le film. La fin, je veux pas la spoiler, mais il y a une fin où en fait on voit en fait que on va print la légende de ce type là et pas la réalité, et ça c'est quelque chose qui transparaît un peu pendant tout le film mais qui est jamais tenu en fait. Et c'est dommage, en fait, je pense qu'il y a trop d'envie dans ce film-là, donc c'est quand même... voilà, c'est pour ça que je le déteste pas, vraiment. J'aime bien ces films qui essaient de faire plein de choses en même temps. Mais là, ça devient un bordel. Hein.
Est-ce qu'il aurait pas fallu pousser le curseur encore plus loin, finalement, et jouer vraiment sur ce côté de, il est devenu une légende malgré lui, et renforcer encore ce décalage qu'il pouvait y avoir
Peut-être, effectivement. Ça aurait été un axe intéressant. Ouais. Et je pense que le problème de ce film-là, c'est qu'il y a 60 axes dedans.
C'est ça. Je pense qu'en fait le truc c'est que tu te retrouves pas avec un film en fait qui est homogène, parce que en fait je pense que bah oui en fait bon déjà oui cette problématique d'écriture et un bon acteur va pas tu vois, enfin il y a des scènes, il y a une scène notamment en fait on en a parlé avant de faire l'émission, mais il y a une scène en fait où t'as Nicolas Hoult qui est un des acteurs de Mad Max Fury Road qui en fait se retrouve face à la mer. Et pardon, et qui dit en gros à un moment donné, tu sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de se laver la bite ou je sais pas quoi, enfin c'est un truc un peu space comme ça. Tu te dis bon, tu sais, on rentre dans la scène si tu veux, il y a pas t'es pas prévenu, tu sais pas pourquoi ils se fréquentent à ce moment-là les deux personnages alors qu'ils sont pas censés être proches, tu vois. Et c'est un plan fixe. Et donc lui il est en train de, je sais pas, de se laver la bite, je sais pas ce qu'il fait. Et en fait en gros ils sont en train de, plus ou moins, tu sens que c'est en train de partir en cacahuète la conversation. Et elle lui saute dessus, elle commence à lui essayer de lui arracher la moitié de la gueule en lui gueulant dessus, quoi. Et la scène s'arrête. Et tu fais OK. Et en fait, tu sens que c'est, en fait, tu sens que c'est une impro, limite une impro théâtrale, si tu veux, où les mecs sont des bombes. Là, on shoot, on a un truc. Je la mets parce que les acteurs sont bons.
Tout à fait.
Et si tu regardes que de ce point de vue-là, vraiment de ce point de vue-là, tu dis bah oui, ils étaient habités, ils étaient dans la scène, il se passait un truc, tu vois, c'était. Voilà. Est-ce que ça sert le récit? Est-ce que ça sert les persos? Est-ce que ça sert le... Tu vois, c'est vraiment... En fait, tu te demandes ce que ça fout là. Et mine de rien, là, c'est l'exemple le plus flagrant. Mais en vrai, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a plein de moments comme ça.
Hystérique,
ouais. C'est-à-dire... Ouais, mais c'est même pas une question de ça. C'est une question où tu te dis... Bon, voilà, moi, je pense que le problème du film, c'est indépendamment de son point de vue un peu brinque-ballant comme ça, c'est qu'il avait... Je pense qu'il avait une street cred à récupérer après le beat d'Assassin's Creed et après le et pas seulement le beat au cinéma, hein, parce que c'est pas avec ça qu'il va se refaire forcément, mais vraiment auprès de la critique et auprès de... Voilà. Et je sais pas, si tant mieux si ça lui sert à quelque chose, tant mieux si ça fonctionne, mais en fait, le problème, c'est que ça donne pas forcément... Enfin, je pense que c'est pas la bonne approche pour traiter ce genre de sujet, en fait. S'il faisait ça avec une histoire à lui, pourquoi pas? Mais ce genre de sujet, tu te dis, merde, c'est dommage, en fait, de voilà. Et encore une fois... Certes, il y a le mot initial, tu vois, le true history, enfin, je veux dire, le mot qui dit rien n'est vrai, mais bon, ça s'appelle quand même True History of Gang Kelly, et mine de rien, tu te dis, putain, ça essaye d'être réaliste, ça essaye d'être naturaliste, et même là, je trouve que ça échoue un peu, quoi, parce que finalement, rien ne fait vraiment mal, rien ne fait vraiment, tu vois, n'est vraiment malsain, rien n'est vraiment. On est vraiment à la surface des choses, jusque dans le traitement du sujet, en fait, finalement.
C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gênant, beaucoup plus malaisant. Ouais. Et finalement, ça arrive pas vraiment, quoi.
Non, je pense que c'est... Mais je me demande même si à la fin, il... Je pense que ce genre de scène, la scène que je décris, ça se voudrait être ça. C'est un truc où, genre, d'un seul coup, il y a un instantané, tu vois. Mais encore une fois, je pense que ça n'a pas été pensé. Je pense que c'est une impro où le mec se dit j'ai aimé et je la laisse dedans et j'aime bien mes acteurs dedans et j'aime bien, et oui, très bien, tu vois, mais en fait voilà. Mais là pour le coup, tu vois, je serais vraiment curieux de savoir ce que les gens vont penser du film, parce que c'est vraiment tu vois, est-ce que c'est moi en fait qui suis fermé à l'idée de ce genre de projet, tu vois. Moi, j'ai vraiment l'impression de regarder un truc de petit malin, de petit poseur, si tu veux, qui... Mais après, comme je connais pas assez la carrière du mec, je sais pas si c'est un truc qui infuse vraiment totalement son cinéma, c'est-à-dire Assassin's Creed, mis à part.
Mais quand, dans Snowtown, déjà, il y avait vraiment une volonté de montrer... C'est pour ça que je parlais d'Harmony Korine, une espèce de fascination pour le crade, des scènes de viol... filmé en plan fixe. C'était un peu, ouais, c'était un peu racoleur, en fait. Moi, j'avais pas trop aimé. Mais bon, quand même, Macbeth était chouette. Et je te dis, moi, le gang Kelly, je trouve qu'il y a quand même des moments qui... Moi, j'ai pas perdu mon temps, quoi. Et il a un projet de film que je trouve incroyable. Je sais pas s'il se fera. Sur un officier allemand après la Seconde Guerre mondiale qui décide de se racheter une conduite et qui décide de traquer ses anciens collègues dans une Allemagne en ruine. Ça, c'est typiquement.
C'est pas tiré d'une histoire vraie.
Non.
C'est donc une bonne idée.
Très bien. Je vois Alain qui fait des signes.
Non, oui. Non, il me dit de me taire depuis 20 minutes. Terrible. Il faut savoir que j'ai pas été invité en fait. J'ai vu de la lumière.
Je suis rentré. Un micro, voilà. Tu t'es dit que t'allais parler.
Voilà, donc c'est un combat pour rester.
Bon, je pense que ça nous amène justement vers la conclusion, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter.
Pas vraiment.
Non.
Non. Bon, alors pour conclure ce film, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on va pas le voir?
Alors moi, comme je vous dis, j'ai pas perdu mon temps. Oui, il y a un film que j'aurais voulu qu'il ressemble à ça en fait. Et ça, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent le voient, parce que j'en entends jamais parler. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Donc peut-être que je suis devenu fou, mais qui s'appelle Black 47 de Lance Daly, qui parle de l'Irlande et de l'occupation anglaise en Irlande. On dirait un film de Eastwood. C'est un film à la fois historique et un film de vengeance. Je trouve que c'est absolument brillant. Donc peut-être que je conseillerais plus ce film-là aux auditeurs que le Gang Kelly, mais en même temps le Gang Kelly, moi, il m'a fait poser de bonnes questions. Je me suis pas senti complètement floué. Moi, ce que j'aime pas, c'est les films mercantiles. Celui-là, il essaye plein de trucs, donc voilà.
Très bien, Stéphane.
En fait, c'est très difficile. Moi, j'ai souvent l'impression que je regarde des films pour des mauvaises raisons. Enfin, en tout cas, mes raisons personnelles. Mmh. C'est-à-dire, et du coup, je pense que tout le monde fait un peu ça, dans l'absolu, en vrai. Mais en gros, mes raisons, c'est des raisons où s'il n'y a pas du cinéma dedans, ça va vite ou alors il faut je sais pas, tu vois, il faut que ça baboule, j'en sais rien, mais bon, bref, le truc, si tu veux, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui se disent tiens, je vais regarder parce que j'aime cet acteur, j'aime Russell Crowe, ou j'aime et en fait le truc, c'est que peut-être que ça va fonctionner sur ces points de vue là donc oui, là tu peux effectivement leur dire ouais, c'est un petit peu travaillé sur ce point de vue là peut-être qu'il y a des gens qui aiment des trucs historiques, tu vois. Donc ouais, c'est pas, enfin, moi, je pense que c'est un film qu'il faut se torturer un peu quand même. Tu vois, faut se le faire, quoi. Tu vois, ça dure 2h10, c'est pas fluide, c'est pas évident. Non, c'est un poil chiant, hein, aux entournures, quoi. Donc non, mais parce que c'est vraiment, en fait, c'est-à-dire, c'est même pas vraiment une recréation du quotidien du bonhomme, tu vois. Mais juste des fois, par moment, par défaut, c'est ce que c'est, tu vois, parce que t'as l'impression qu'il y a de l'improvisation en permanence. Donc c'est trop leste pour moi pour être vraiment recommandable au sens, genre, vous allez voir un truc qui file droit, un récit, etc., etc. Vous allez c'est-à-dire, même si c'est censé être sombre, etc., etc., vous allez vous amuser. Bon, voilà, je ne peux pas dire que je peux pas dire que c'est ça. Mais, après, il y a peut-être des raisons. Si, comme moi, vous considérez que c'était le réalisateur d'Assassin's Creed, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Vous pouvez peut-être voir le film pour vous rendre compte que ce n'est pas une fatalité non plus, quoi. C'est un peu mieux.
Bon, on va dire que pour une fois, l'avis n'est pas unanime. Hein, donc, chers auditeurs, vous allez devoir vous faire votre avis vous-même. Et vous d'ailleurs, vous en pensez quoi, hein? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Justement, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Hein. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Je rappelle que le film est disponible en VOD. Il sortira également le 4 décembre prochain en Blu-ray. Et on diffusera vos avis dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait du documentaire You Don't Know Me. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs?
Salut la team Capture, donc c'est Benoît. Donc mon avis sur You Don't Know Me. Alors pour moi, les gros points forts de ce documentaire étaient le fait d'apprendre un petit peu quelle est cette seconde vie du film, un peu à l'image d'une espèce de plaisir coupable, campy et kitsch, ce qu'on peut dire trouver déplorable comme Yannick, mais je trouve ça quand même intéressant de le mentionner.
C'est Fouad. J'ai beaucoup aimé le documentaire You Don't Know Me, surtout pour la place qu'il laisse à l'actrice Elizabeth Berkley, puisqu'on se rend compte que la trajectoire de l'actrice Elizabeth Berkley en fait se confond avec celle de son personnage de Nomi, ce qui fait de Showgirls le biopic d'Elizabeth Berkley.
Autre point fort du film, c'est de faire des parallèles avec le reste de la filmographie de Verhoeven, bien montrer que voilà, Showgirls est bien un film de Verhoeven, avec toute la démarche artistique et intellectuelle que ça peut comporter.
Et ce qui rend finalement Showgirl encore plus vertigineux. Donc, formidable documentaire. Merci Capture Mag. Keep up the good work.
Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présents sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine, cette fois-ci, pour parler de l'adaptation d'un dessin animé. Mais je ne vous dirai pas lequel, à vous de deviner. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.